France Inter. Le masque et la plume. Excellente année à toutes et tous, auditeurs, auditrices et tous les autres, pour reprendre un mot de David Bowie. Bonne année 25, donc, avec livres, films et scènes. Une nouvelle année du masque qui s'ouvre avec le cinéma et la présence de Xavier Le Herpeur de la revue La 7ème Obsession et de France Inter, Charlotte Lipinska de Télématin, Muriel Joudet du journal Le Monde et Christophe Bourseiller de France Inter. Nous commençons l'année avec Jolie Jolie, comédie musicale où Clara Luciani est une actrice blonde. Au programme aussi l'étonnant film sanglant de Franck Dubosc intitulé Un ours dans le Jura, Bird, chronique sociale et fantastique d'Andrea Arnold, qui va vous diviser je crois, Le Déluge avec Guillaume Canet en Louis XVI et Nosferatu qui, comme vous l'imaginez, n'a rien d'une comédie romantique. Bonjour et bienvenue en salle, c'est Le Masque. Vous aviez forcément la tête ailleurs pendant la trêve des confiseurs. Cela dit, deux films vous ont fait prendre la plume entre 2024 et 2025. Le premier, c'est 20 dieux de Louise Courvoisier, épopée jurassienne du jeune Totten, 18 ans, qui a la charge de sa petite sœur et qui décide de participer au concours du meilleur comté de la région pour gagner de l'argent. Marianne de Cancale se dit énervée par les invraisemblances du scénario et par la poésie des scènes de beuverie. Comment peut-on aimer ce film ? Demande Didier de Peugeard. C'est une caricature et le portrait d'une Franche-Comté arriérée, écrit Nathalie. Mais la majorité des mails, et ils sont nombreux, célèbrent 20 dieux qui a divisé cette tribune. Hugo de Belfort émet une hypothèse. Peut-être que l'émission porte trop bien son nom. Vous oubliez parfois d'ôter le masque pour saluer la simplicité. Daniel de Pleurin précise en préambule « Le masque est non complaisant, bourré de mauvaise foi, parfois prétentieux et agaçant, bref, indispensable. Mais, concernant 20 dieux, j'ai le plaisir de vous prendre en défaut. J'ai aimé ce film inclassable et incassable. Isabelle Desparcy écrit « Dans ma région, dans ma campagne, on fabrique du maroilles. » On se retrouve dans ce film. On, c'est trois générations, moi 70 ans, ma fille 45 et ma petite fille 17. Nous avons beaucoup aimé. En revanche, Sarah Bernard, la divine de Guillaume Niclou, est loin de faire l'unanimité. Bavard et un peu confiné, écrit Frédéric d'Orange. Pétrifié, empaillé, étouffant et sans théâtre, écrit Pierre Cusor de Gentilly. Pascal de Houille dans les Yvelines écrit au contraire avoir apprécié le jeu de Sandrine Kiberlin et la subtilité des dialogues qui donnent leur sens à l'expression « avoir de l'esprit ». Enfin, Thomas prend de l'avance sur Le Masque à venir en évoquant le film de vampire dont nous allons débattre aujourd'hui, à savoir Nosferatu de Robert Eggers. Chère Rebecca, m'écrit Thomas, voici le résumé que vous pouvez lire pour présenter ce film. Un sale type sniffe un pendentif qui sent le lilas. Ça le rend dingue. Résultat, un film avec hémoglobine et glouglou. À tout de suite. Alors, qu'en pense la tribune ? Vous le saurez après la virgule. La salle était pleine et le public jeune en ce lundi 30 décembre pour cette nouvelle version donc de Nosferatu, remake mené par l'américain Robert Eggers, avec Lily Rose Depp dans le rôle d'Hélène, jeune fille sacrificielle dont Nosferatu exige le consentement, mais je vais trop vite. Robert Eggers reprend la trame de Nosferatu à la lettre. Pour rappel, nous sommes en Allemagne, dans le port de Wiesbourg en 1838. Thomas Hutter, tout juste marié à Hélène, doit se rendre au fin fond des Carpates pour faire signer un acte de vente au mystérieux comte Orlok, qui dans le film existe d'abord par le son, à savoir des bilans, air roulé et respiration. Pendant ce temps, Hélène est en proie à des transes et des crises somnambuliques. Je précise enfin que Nicolas Hoult, vu dans le dernier Eastwood, interprète Thomas, Willem Dafoe, le professeur chasseur de vampires, et Bill Skarsgård, totalement méconnaissable, et Nosferatu. Depuis sa sortie le 25 décembre, le film connaît un bon démarrage en salle. Y participerais-tu, Xavier ?
Je crois que tu connais la réponse, oh Rebecca.
Voilà. Mais le livre, là, nous rend la
développe.
Oui, absolument.
Bon, alors c'est fort dommage pour le film, c'est fort dommage pour les spectateurs, les auditeurs. Bah, c'est un pastiche qui aurait pu être extrêmement réussi s'il avait au moins le bon goût de le savoir. C'est totalement involontaire, mais qu'est-ce qu'on rit ? Moi, je me suis marré du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire dépenser autant de fric pour faire un remake, mais image par image, sans âme, sans inventivité, sans envie de cinéma, qui frise le ridicule à chaque fois qu'il propose quelque chose, parce qu'on va quand même rappeler, pour les plus jeunes de nos auditrices et de nos auditeurs, nous fera tout à coup muet. Et là, malheureusement, il y a des dialogues. Donc, visiblement, sous-titrés par ChatGPT, parce qu'il y a des moments où c'est, en termes de littérature française, une catastrophe. Tu l'as dit déjà, ça commence par la voix très caverneuse, avec des « Elle, très loulée, du méchant de Sferatu, qui, depuis ce calepate, appelle la pauvre Lily Rosedep à céder à ses avances. » Bon, elle est là, donc totalement pétrifiée.
C'est vrai que sa voix est très drôle.
Ah non, mais c'est totalement ridicule. Il y a un moment où c'est pas possible. Les rares moments où on n'entend pas la voix qui réoule comme ça, les airs, on a de la musique tonitruante qui va bien nous souligner ce qu'il faut penser, ressentir, la peur, l'angoisse, l'anxiété. Heureusement, parce que je pense qu'on aurait pu mettre aussi des rires enregistrés, je pense que ça aurait été une meilleure idée d'ailleurs. Tellement, mais on se poil. Alors il y a des effets sur le sépia, les couleurs, le noir et blanc, la constipation de Nicolas Hoult, parce qu'effectivement il a un vrai problème gastrique dans le film, il y a un truc qui n'est pas passé, donc il passe son temps à avoir des sueurs froides comme ça et à avoir vraiment un problème au niveau, je ne le dirai pas, mais on a envie de lui dire mais prends 30 secondes, va aux toilettes et reviens après, il n'y a aucun problème. Le seul qui a compris que c'était un pastiche, c'est William Dafoe qui joue n'importe comment, n'importe quoi, qui se dit mon Dieu je vais prendre le chèque mais je vais tout faire pour foutre le film en l'air. Et malheureusement, le film est encore plus mauvais que lui.
Et moi qui espère parfois que Le Masque donne vraiment envie d'aller au cinéma.
Ah mais non, mais tu peux pas
engager
les gens à dépenser 15 euros pour aller voir une merde pareille.
Que dire après ça ? Non, mais je rejoins totalement Xavier. Moi, Robert Eggers, c'est vraiment une certaine idée de l'enfer. Je déteste...
Merci.
En fait, il représente absolument tout ce que je déteste aujourd'hui dans l'auteurisme hollywoodien, c'est-à-dire ce cinéma de la maîtrise qui tourne à vide, en fait. Et on passe 2h15 de film à voir Robert Eggers qui compose et surcompose ses plans et joue de la symétrie, des surcadrages. Et il n'y a vraiment aucune âme qui traverse le film. C'est-à-dire que là où le film nous parle de sexe, là où le film se veut sale, là où le film voilà, essaye de nous raconter un peu, de mettre les mains dans le cambouis. En fait, tout est absolument propre, je dirais même gentrifié, parce que j'ai toujours l'impression chez lui de voir un imaginaire gothique, mais qui serait placé derrière la vitrine d'une boutique de fringues. Voilà, donc moi, je ne trouve pas ma place. En tant que spectatrice, je trouve qu'il n'y a absolument aucune place quand tout est à sa place, comme ça, dans les images, et que je ne sais pas où me placer, je ne sais pas où est l'émotion, je ne sais pas. J'ai l'impression que le cinéaste me tourne le dos, voilà, et donc je lui tourne aussi le dos.
Mais peut-être qu'on peut sauver Lily Rosedep, je sais pas, Charlotte.
Ah non, ah non, vraiment pas. Okay. Alors, c'est-à-dire que Xavier a beaucoup ri et moi, j'ai beaucoup dormi. C'était d'un ennui. En fait, on a l'impression de feuilleter un beau livre d'images, mais vraiment de le feuilleter très très vite. C'est-à-dire qu'il y a une surenchère d'effets.
Ça dure quand même 2h12.
Oui, enfin, c'est monté quand même extrêmement nerveusement. Ça n'a ni queue ni tête parce qu'il y a un systématisme de narration qui, moi, m'a horripilé. C'est-à-dire que chaque scène a son acmé et qui nous fait très très peur, il se passe un truc et ben, paf, quelqu'un se réveille. Et alors ça marche une fois, deux fois, trois fois, mais cette espèce de confusion qu'il entretient en permanence sur le rêve, le fantasme, la réalité, au bout de 12 fois, là, il y a un moment où je lui dis, non, mais mon gars, moi, je lâche l'affaire. Et par ailleurs, en effet, les comédiens, pour moi, ne jouent vraiment pas dans le même film. C'est-à-dire que Nicolas Hoult est assez sérieux dans son rôle comme ça de jeune époux qui veut bien faire pour aller voir ce comte Orloff. Lily Rosedep, bon, bah, c'est pas encore là qu'il y a quand même une évidence de bonne comédienne, quoi. On va attendre encore un petit peu. En même temps, on lui demande de faire des choses assez difficiles, mais enfin bon, là vraiment, ça ne marche pas. Et puis, comme tu dis, William Dafoe en roue libre complètement. J'ai l'impression de voir des rushs parfois du dernier film de Lanthimos. Enfin, c'est vraiment pas possible. Et surtout, le film ne laisse aucun espace pour le spectateur de répit. C'est-à-dire que dans toutes les scènes, ça crie, ça hurle, ça grogne, il se passe un truc,
ou ça mange des pigeons crus
et ça recommence. Bon, bah, moi, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, je vais faire une petite sieste et puis rendez-vous tout à l'heure.
Est-ce que tu es resté éveillé, vif,
Je suis un peu endormi,
Christophe,
en cours de route. Moi, je n'ai pas trouvé ça aussi violent que vous le dites. Je suis étonné que personne n'ait parlé encore de l'exorciste, parce que c'est une version de Nosferatu qui est un mix de l'exorciste, puisque la malheureuse Lily Rose Depp, elle n'a pas grand-chose à jouer, je veux dire franchement, puisqu'elle se contente de se convulser avec beaucoup d'art. Et alors là, c'est tout à fait étrange, cette espèce de mélange des genres. Mais vous savez, la différence entre Dracula et Nosferatu, c'est quand même que Dracula, il était assez incarné, alors que le Nosferatu de Murnau, tout comme le Nosferatu de Werner Herzog, il ne faut pas oublier, Klaus Kinski, étaient des créatures totalement désincarnées, totalement théâtrales, et des espèces de monstres, incarnations du mal désincarnées, alors que là, le Nosferatu en question, c'est un catcheur moustachu, quoi. Donc on est dans un espèce
avec
de un Nosferatu de manga.
Il y a une scène où on voit qu'il a un gros zizi,
il a une très grosse
zizi. Non, mince, ça n'échappe pas,
ça, Xavier.
J'ai dormi au mauvais moment.
Et alors, le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est que où est le message ? C'est un remake sans contenu, sans pensée, c'est creux, ça n'apporte rien, c'est de l'esthétique pure au service du vide.
Et c'est nous les méchants ? Ah bah dis donc !
Bonne année à tous ! Qui souhaiterait sauver Nosferatu des griffes de la critique dans la salle ?
Là, on lui a bien planté le pieu.
Eh bien, personne. C'était donc
relever, hein.
Nosferatu de Robert Eggers. Et nous allons maintenant parler de Bird, écrit et réalisé par la Britannique Andrea Arnold. Elle s'appelle Bailey, elle a 12 ans et elle vit avec son frère dans le squat de leur père Bug. Bug a l'intention de se marier avec une femme qu'il connaît à peine et il espère faire fortune grâce aux propriétés hallucinogènes de bave de crapaud. Quant à la mère de Bailey, elle et ses demi-sœurs subissent la violence d'un homme de plus en plus incontrôlable. Dans ce quotidien toujours incertain, un garçon du nom de Bird entre dans la vie de Bailey. Mais s'agit-il d'un garçon ? Il est étrange et se révèle ange gardien. Le tout se déroule dans le Kent, dans la banlieue prolétaire anglaise, avec un bestiaire magique. Charlotte.
Alors là, je crois qu'Andrea Arnold est une sorcière. En tout cas, moi, elle m'a lancé un sortilège, c'est-à-dire que le film démarre vraiment dans un réalisme social assez radical, qui est efficace, mais on se dit, bon, on a un peu vu ça quand même, vu et revu ça plein de fois. Et puis, au bout de 10-15 minutes, il y a en effet cette rencontre avec Bird, qui est incarné par Franz Rogowski, qui est un acteur que j'adore, un acteur extrêmement singulier, très particulier. Et là, tout d'un coup, il y a comme une incursion de contes fantastiques dont je m'y attendais absolument pas. Et là, j'ai été prise, mais d'une émotion invraisemblable qui n'a fait que crescendo jusqu'à la fin du film, parce que dans cette misère sociale, dans ces rapports humains extrêmement violents, et ben finalement émerge d'une part la solidarité des enfants entre eux et comment une rencontre et une amitié assez improbable va permettre à cette petite jeune fille de s'accrocher à une parcelle d'humanité, d'écoute, de bienveillance et qui seront pour elle des béquilles pour la vie. Et moi, ce télescopage de contes, encore une fois, social, très nerveux, très incandescent, avec cette part un peu fantastique, onirique. Alors certains parleront du règne animal, mais c'est vraiment très minimal et c'est par parcimonie quand même dans le film, m'a créé une émotion à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Et par ailleurs, si les adultes sont des acteurs donc professionnels, et il faut citer aussi Barry Cogan qui joue le père, qui est mais alors vraiment plus vrai que nature. Si on ne connaissait pas cet acteur, on se dit c'est un vrai gars du Kent, père à 12 ans, incroyable. Non, non, c'est bien lui qui jouera Ringo Starr dans le film de Sam Mendes, mais les enfants qui, eux, par définition, sont amateurs, sont absolument éblouissants.
Dans Nikia
Adams. C'est le grand
Adams.
Film de la semaine pour moi.
Dans Nikia Adams, dans le rôle de Bailey. C'est le grand film de la semaine pour toi aussi, Xavier ?
Non, hélas, pas du tout. Là, je n'y arrive pas avec Andrea Arnold. Je crois que le seul film d'elle que j'aime bien, c'est Les Hauts de Hurlevent, où elle osait quelque chose qui m'avait intéressé, mais j'avais été un peu intrigué par Fish Tank, mais pas au point quand même de céder non plus à l'hôtel d'Andrea Arnold. Là, j'ai l'impression qu'elle refait Fish Tank. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir exactement le même film avec les mêmes métaphores animales au même endroit, les mêmes animaux. D'ailleurs, ça commence par une mouette, petit animal effectivement chétif, qui est un peu bancal sur ses deux pattes. On a compris que c'était l'héroïne. Merci. Tout le monde s'appelle Bug. Bird, le père de Bird s'appelait Lamb. agneau, donc à un moment, il faut arrêter quand même, André Arnold. Ferme ton livre d'ornithologie et du règne animal et ouvre quand même le livre de la vraie vie. Tout le temps, il y a un animal pour nous faire comprendre ce que ressent le personnage principal. Je ne vois pas du tout le mystère du conte fantastique, puisqu'on le comprend très très vite, et c'est le problème du film. C'est-à-dire qu'André Arnold ne fait absolument pas confiance aux spectatrices et aux spectateurs. Elle explique tout, une fois, deux fois, trois fois, la gamine filme des images qu'elle projette sur le mur de sa chambre. Donc on revoit des images qu'on a déjà vues, mais on les comprend encore un peu mieux par le prisme de la psychologie et de ce qu'on a su du personnage. Mais arrête, laisse-nous faire notre propre travail, je t'en supplie. L'arrivée de Bird, elle la tue dans l'œuf immédiatement, le mystère.
Ah mais non, parce que c'est une part d'imaginaire.
Mais non, c'est pas une part d'imaginaire.
Qui s'oppose à ce qu'elle veut filmer.
Ne me force pas à raconter ce que je vais raconter. Je vais tout spolier, ce serait vraiment.
Mais elle te force pas.
Je vois ce que tu es en train de faire, Charlotte. Et ça n'est pas bien. Non, mais partout. Et ça se termine encore une fois par un dernier animal, la métamorphose de la petite fille qui est devenue un petit renard, bien sûr. Elle est futée maintenant. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter, quoi.
Christophe.
C'est un film très puissant, c'est un film bouleversant. C'est un film qui est très intéressant parce que André Arnold provient d'un milieu particulier anglais qui est le quart-monde. Mais c'est un quart-monde qui n'est pas n'importe quel quart-monde. C'est un quart-monde qui est issu du rêve alternatif et de la culture des squats. C'est-à-dire que c'est un film qui est une critique, qui montre l'horreur, la tristesse, la destruction du rêve des contre-cultures. On est là face à d'anciens punks, des gens qui écoutent des musiques géniales. Alors les musiques
la BO
est à tomber de bonheur. Je crois que je suis resté comme ça, j'attendais le générique de fin, je voulais pas me lever tellement la musique était belle. Alors c'est les Sleaford Mounds, Fountain D.C., plein d'autres groupes moins connus, enfin, mais c'est vraiment
parler
extraordinaire.
Mise en scène, structure scénaristique, caractérisation des personnages, non, pas ton truc aujourd'hui.
Surtout ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est entièrement filmé à l'épaule et en fait c'est formidable parce que c'est la violence sortée des images reflète la violence de ce que subit cet enfant, cette jeune fille qui n'a pas choisi de naître et qui se retrouve dans ce milieu vraiment répugnant de squat abject. Et ça, à l'arrivée, je trouve que c'est un film désenchanté, émouvant sur ce qui reste des contre-cultures, et c'est ça qui fait la richesse de ce film.
Ça t'a parlé, ce qui reste des contre-cultures, Muriel?
Il y a Coldplay quand même en boucle dans le film, je ne sais pas si c'est contre-culturel.
Ouais, c'est
pas grave.
Mais...
Non, je suis tout à fait d'accord avec Xavier, donc je vais le dire en moins drôle, mais c'est vrai que je commence à en avoir marre de ce logiciel de réalisme social qu'on cuisine à toutes les sauces et à tous les pays. Et j'ai l'impression en fait que c'est une sorte, c'est comme si pour filmer les prolos, il y avait une esthétique qui leur était fixe et que du coup, on oublie de les regarder parce que c'est toujours les mêmes, que ce soit les frères Dardenne ou je sais pas quel cinéaste, c'est toujours la même esthétique. Et du coup, au bout d'un moment, quand on voit la mère de la petite fille se réveiller et fumer au lit, le premier truc qu'elle fait au réveil, c'est allumer une clope. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette image, j'aimerais qu'on en montre d'autres. Puis il y a le nouveau mec de cette femme qui est violent. Enfin, on est quand même sur un répertoire extrêmement limité. Et pour le reste, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train d'osciller entre, au début, l'enfermement et puis progressivement la liberté, l'émancipation. Et que, je rejoins Charlotte sur le fait qu'à un moment, le fantastique vient aussi donner une sorte d'issue à ce réalisme social, mais précisément, elle est un peu limitée parce que la métaphore est tellement énorme dès le début qu'elle fait du surplace entre le début et la fin.
Quelqu'un souhaite intervenir pour ce film dans le public du théâtre de l'Alliance française? Monsieur, bonjour.
Bonjour. Effectivement, je suis assez d'accord avec Xavier. C'est insupportable de... C'est même pas le prolétariat, quoi. C'est des squatteurs. Mais ils ont quand même les moyens, ce qui fait moderne. Ils ont quand même des trottinettes électriques. Et il est quand même hyper tatoué. Et je sais que ça coûte très cher, tout ça. Et alors, il y a un truc qui me désespère, c'est qu'il y a plagiat sur l'homme oiseau, quoi. Sur le film de Thomas Caillé. J'ai même cru que c'était l'acteur, tellement il a la balafre sur le nez. Je vois pas divulguer pour les gens qui auront le courage d'aller voir ce film. Hein. Voilà.
Très, très beau film. Hein.
Moi, je les encourage à aller se faire une raison.
Quelqu'un d'autre souhaite intervenir concernant Bird d'Andrea Arnold? Oui. Bonjour.
Bonjour. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup bouleversée, que j'ai adoré et que j'ai vu dans le cadre d'un festival au milieu de 20 autres films. Et c'est parmi les deux que j'ai le plus aimé. Et j'ai trouvé qu'il y avait une cinématographie très très belle, qu'il y avait beaucoup de poésie. Et j'ai trouvé que c'était très bien entremêlé, le réalisme social et le fantastique. Donc je conseillerais d'aller le voir en salle.
La Tribune.
Merci, mademoiselle.
Comme La Salle est divisée.
Bravo.
Concernant donc Bird d'Andrea Arnold. Et maintenant, nous souhaitons à tous nos auditeurs une excellente année 1977. C'est par cette phrase énoncée à la radio que s'ouvre Jolie Jolie, comédie musicale de Diastème, entièrement tournée en studio. Diastème a coécrit le scénario avec Alex Baupin, qui signe aussi paroles et musique de 18 chansons. En ce 1er janvier de l'an 77, donc, Elias est un écrivain au bord du désespoir parce qu'on manque d'inspiration. Il finit par sortir boire un verre et croise Éléonore au comptoir. Ils se plaisent, passent la nuit ensemble et elle part au petit matin en confiant son numéro à la femme de ménage. Commence alors un ballet amoureux à plusieurs entrées, le tout très coloré, entre Paris et les studios de Cinecittà, puisque Éléonore est comédienne. Elle est jouée et chantée par Clara Luciani pour la première fois au cinéma. William Lebgill et Elias figurent aussi à l'affiche et tout en voix, Laura Felpin, Vincent de Dienne ou encore José Garcia, qui s'est mis à la chanson « Oui ». Christophe, tu as fredonné ?
Alors déjà, je ne comprends pas pourquoi
tu ça se passe. Tu peux nous le refaire, ça ?
Oui, c'est plutôt le « E » du désenchantement.
D'accord.
Et de quelqu'un qui s'est bien ennuyé pendant un certain temps. Ça se passe en 1977.
Oui.
Pourquoi ? Ça, c'est la question fondamentale. Je n'ai toujours pas trouvé la réponse. Ça aurait pu se passer en 1972, en 1922. Je ne sais pas, on ne voit pas pourquoi. Bon, ça, c'est la première chose.
Bah si, ensuite, parce que dirais... 77, c'est la croisée du disco, du punk.
Oui, alors c'est pas évident dans le film, parce que j'ai entendu ni disco ni punk. Hein.
On voit un
c'est
punk,
une comédie musicale, je crois que c'est la comédie musicale la plus dépressive, la plus sombre que j'ai jamais vue. Mais c'est vrai, je ne dis pas ça
c'est
du
pourtant
tout.
Pourtant très coloré.
C'est descriptif. Ah, la drôlerie n'existe pas. Les paroles, c'est nul, 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 je suis nul, je te fais citer, ou je suis une ratée. Je suis une ratée, une ratée. Une... Bon, bah voilà. Bon. Alors,
là, on dirait du Offenbach.
Ce qui m'a gêné, c'est que surtout, j'ai trouvé que c'était vraiment sans rythme, sans enthousiasme, sans joie. C'est pour ça que c'était vraiment un film dépressif, si vous voulez. Et puis, il y a un autre problème.
C'est mélancolique.
Oui, bah, mélancolique, si tu veux. Moi, je dirais en dépression nerveuse grave. Et puis, alors, surtout, il y a un problème pour moi, c'est Clara Luciani. Parce que Clara Luciani est une grande chanteuse, elle est très audacieuse, elle écrit des livres, elle fait des choses assez étonnantes, mais ce n'est pas une comédienne, elle est aussi expressive qu'un panneau de signalisation. Et ça m'a gêné. Alors je dirais à l'arrivée que c'est une comédie musicale sinistre, dominée par des éclairages toujours nocturnes, crépusculaires, c'est vraiment triste, et donc c'est pas ça qui va nous sortir de la sinistrose.
Je précise que le film est en couleur et que c'est quand même très très coloré. Charlotte.
Ben oui, c'est très très coloré parce que c'est un film qui a été tourné en studio et qui l'assume entièrement. C'est-à-dire, moi, je trouve ça très charmant, ce kitsch complètement assumé, qui est un passé qui est fantasmé, qui est idéalisé et qui, effectivement, le fait de tourner en studio assume un décor de carton-pâte qui donne un aspect un peu théâtral à ce vaudeville de chasse et croisée amoureux où tous les amours sont contrariés, mais qui, au final, quand même, célèbre la joie, un de l'amour, bien évidemment, mais aussi de toutes les configurations amoureuses possibles. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir un malentendu quand on dit comédie musicale et quand on dit Vincent de Dienne, Laura Felpin, William Lebgill, on s'attend à rire aux éclats. Et en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus passéiste et mélancolique, qui est vraiment un petit cocon de douceur, quoi. On est pendant 2 heures. Alors certes, c'est pas un rythme de turbo-turbo, mais ça fait du bien aussi d'être un peu douillet, cocon. On est dans une petite boule de Noël. Et moi, je trouve que ça fonctionne parfaitement.
Est-ce que tu t'es sentie dans un cocon douillet, Muriel ?
Non, pas du tout. Non, ah. Dans une cage. Mais non, mais le problème du film, c'est que je trouve que la comédie musicale, c'est un genre qui ne pardonne pas. C'est-à-dire qu'il faut une technicité, que ce soit sur le chant, la danse, les plans. Et là, je sens que Diastème ne sait pas du tout comment filmer ses scènes. Ça m'a fait penser, alors, et ça aurait pu être une bonne option à une sorte de show télévisé de Noël filmé en direct, parce que vraiment, il y a une esthétique télévisuelle que moi je trouve extrêmement laide. Dans le film, tout est en perruqué, en fait. Il y a José Garcia vraiment qui a une perruque. Enfin, tout le monde a les costumes. On sent qu'ils viennent de sortir de leur housse, enfin, tout est très propre.
Mais c'est rigolo, ça. C'est fait exprès.
Bah,
ça se veut pas d'un réalisme.
Non, pas du tout. Mais après, c'est le problème de, c'est l'absence de rythme, c'est le fait que. Alors moi, je suis allergique à Alex Baupin, ça c'est aussi un truc.
Ah, alors c'est que, ça voilà. C'est un problème. Là, je peux rien
ça c'est aussi le problème. Et c'est vrai que je trouve que le film est presque court après les chansons d'Alex Baupin et qu'on a un peu l'impression d'une sorte d'illustration de l'album d'Alex Baupin. Donc voilà, je trouve que tout le monde joue un peu mal, que ça chante un peu mal, que ça danse un peu mal, que ça filme un peu mal. C'est pas mon idée de Noël, quoi.
Xavier, pour alors, conclure.
C'était plutôt pour moi, parce que moi, en revanche, je suis un grand fan d'Alex Baupin. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup son écriture. On sait la fiction qu'il a et qu'il partage avec Christophe Honoré pour Jacques Demy. Et ça commence par un joli hommage à Une chambre en ville, puisque l'on voit Clara Luciani nue s'engouffrer dehors avec juste un manteau de fourrure autour d'elle.
Comme Dominique
Sanda.
On
pense à Dominique Sanda. Et quelques minutes après, on a la chanson de Jové Garcia pour qu'elle-même, qui est un hommage aussi, un clin d'œil au personnage de Michel Piccoli dans le même film. Donc, c'est pour moi, j'adore les comédiens, j'adore les comédiennes du film, le Raphaël Pain est vraiment formidable dans un rôle qui n'est pas très bien écrit, de la bonne, entre guillemets, là, je veux dire, on aurait... Le problème, et il n'est pas petit, c'est la mise en scène, et là, je rejoins complètement, ça fera 3 sur 3, ma camarade Muriel, c'est-à-dire que c'est quand même mis en scène comme un show des Carpentiers. Alors, pour les plus jeunes, c'était la télé qu'on subissait le samedi soir et le soir de Noël. 3 valeurs de cadre, et vous rentrez tous dans le cadre. Alors, évidemment, ça étrique les chorégraphies, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour jouer. On va mettre des éclairages clignotants pour isoler le chanteur ou la chanteuse, le rôle principal, ce qu'il faut regarder. Donc, c'est extrêmement gênant. Ça n'est pas souple. Il n'y a jamais de gourmandise. Ça n'est même jamais à la hauteur des chansons d'Alex Baupin. Là, c'est en béton, la mise en scène. Et au bout de 10 minutes, il a tout donné. C'est-à-dire pas grand-chose. Et on a encore 1h50 à se fader. Le seul truc que je sauverais, c'est le final dans un cinéma qui n'existe plus depuis quelques mois, qui est le Bretagne, à Montparnasse. Et on revoit effectivement une des dernières grandes salles des années 70-80. Mais vous trouverez des images sur Internet.
Hein. Quelqu'un pour intervenir concernant Jolie Jolie comédie musicale de Diastème avec les chansons d'Alex Baupin?
Très belle. Sublime bande originale. Ça s'écoute.
Personne ne souhaite chanter. Donc je clôt cette tribune sur Jolie Jolie de Diastème et sans Christophe Bourseiller. On passe maintenant au troisième film de Franck Dubosc, intitulé Un ours dans le Jura, avec Franck Dubosc et leur calami en couple à l'écran, Benoît Poulvorde et Joséphine Demeaux en gendarme. Michel, Franck Dubosc donc, est pépiniériste, il vend des sapins avec sa femme, ils semblent cohabiter et leurs fins de mois sont difficiles. Un jour que Michel conduit son pick-up sur une route enneigée du Jura, surgit un ours qui le fait dévier de sa trajectoire, percuter une voiture et tuer une femme avant que celui qui l'accompagne ne s'empale sur un tronc d'arbre. Là, on est à 3 minutes du début. Le sous-titre du film précise, inspiré d'une histoire fausse. Mais je reprends. Dans le coffre de la voiture percutée par Michel se trouve un magot que sa femme et lui vont tenter de garder tant bien que mal. Franck Dubosc signe une comédie noire, policière, immorale, parfois gore, où il sera question de passeurs sans scrupules, de trafic de drogue et de miel de montagne. Tu avais la parole, tu la gardes, Xavier, pourquoi pas ?
Ah, j'étais sûr que tu allais me savonner la planche dès le départ.
Mais non.
Oui, parce qu'effectivement, je crois que c'est à peu près le film que j'aime le plus ce soir dans le programme que tu nous as réservé. C'est-à-dire que, au moins... Franck Dubosc, qui cite explicitement Fargo des frères Coen, ça au cas où on ne l'aurait pas compris, il a au moins la modestie de ne pas faire semblant de le réinventer. Au contraire, Deggers, par exemple, tout à l'heure, qui nous faisait un Nosferatu comme si on n'avait jamais vu de vampire au cinéma. Là, au moins, il s'attelle à son travail, qui est effectivement une comédie enneigée, noire, sordide, un peu méchante. Et je trouve que ça fonctionne. Je trouve que c'est plutôt bien écrit en termes de mécanique, d'humour et de perfidie et de méchanceté là où il faut. Je trouve qu'il ne se trompe jamais de cible. Tu as oublié de citer effectivement avant l'ours des migrants qui vont être arrêtés et dont on va découvrir qu'ils ne sont pas simplement migrants mais qu'ils passent les frontières pour d'autres raisons. Et ça devient une succession de gags assez rigolo puisqu'ils sont arrêtés, ils sont emmenés dans un poste de police qui est tenu de gendarmerie par Poulvorde. Tous les personnages sont à leur place. Personne n'est vraiment sauvé mais personne n'est non plus massacré, ni par l'écriture, ni par la mise en scène. Il y a toujours un sens de l'économie du gag que moi j'apprécie dans les comédies. C'est-à-dire que quand on pose quelque chose, on le réutilise jusqu'au bout et pas nécessairement en allant trop loin. C'est-à-dire qu'il trouve que Dubosc, c'est son troisième film, c'est quelqu'un qui sait faire. C'est pas un acteur qui m'intéresse beaucoup, mais en tout cas, là-dedans, il y arrive vraiment bien. Le gag est bien posé, il est bien articulé, il se conclut au bon endroit. Et puis, un casting de rêve.
Ouais.
Quoi. Mais de rêve, on peut citer, effectivement, je l'ai fait, Poulvorde, Laure Calamy, mais il y a Emmanuel DeVos,
en tenancière.
Il y a Kim Higelin qui est absolument formidable, en fille de Poulvorde. Et ça marche plutôt bien.
Et tu t'es coupé quand tu disais qu'Emmanuel Devos était patronne d'un club échangiste. Muriel, est-ce que toi, tu as marché ?
Non, pas vraiment, alors que j'aime beaucoup.
Alors que jusqu'ici, tu étais d'accord avec Xavier.
Oui, c'est ça, je ne sais pas ce qui se passe. C'est la crise de couple. Non, le problème, c'est que j'ai été entravée dans ma séance par le nombre d'invraisemblances qui sont énormes. C'est-à-dire que le film survole avec beaucoup de panache toutes les invraisemblances, toutes les incohérences. Tout. C'est extrêmement bâclé d'un point de vue scénaristique, mais... Dès le début, même la scène d'accident qui ouvre le film, j'avais l'impression que c'était les répètes avec les cascadeurs. C'est-à-dire que c'est vraiment filmé n'importe comment, écrit n'importe comment. Et surtout, c'est-à-dire qu'on nous fait gober le fait que ce couple ne se pose pas deux secondes pour réfléchir à ce qu'ils vont faire.
Alors ils n'ont pas le temps.
Bah, non, le film est là. Mais en même temps, le film, il est là, dans le dilemme moral.
C'est-à-dire que... Un brechtien ?
Non, mais regardez le couple. Il faut regarder ce couple. C'est-à-dire que le film survole son enjeu principal, qui est le fait qu'un couple, à un moment, bascule de l'autre côté. Et ça a l'air d'être OK pour tout le monde qu'à un moment, on va passer du côté du mal, pour résumer et pas trop spoiler. Je me suis dit, il faut absolument reprendre le scénario, le retravailler, se poser deux minutes et arrêter de donner aux gens de la malbouffe scénaristique comme ça, parce que c'est quand même écrit n'importe comment, Xavier.
Malbouffe.
Il y a une remarquable écriture et il y a un parti pris réaliste qui fait le charme de cette espèce de comédie noire, grinçante, presque surréaliste. C'est un film sans prétention, c'est un film qui singe les films d'horreur, évidemment. C'est un film qui s'inspire ouvertement de Fargo, on l'a dit. Mais franchement, je n'ai pas boudé mon plaisir. J'étais mort de rire, il faut bien le dire. Il y a des enchaînements un peu horrifiques comme ça dont vous avez parlé, que tu as décrit, Rebecca. Et puis alors, Laure Calamy, en femme raisonnable, qui a des raisonnements extraordinaires pour aboutir à des résultats totalement absurdes et géniales. Laure Calamy, pour moi, c'est... Mais les femmes sont géniales dans ce film. Parce que Joséphine Demeaux, en policière, qui tombe amoureuse d'un migrant...
En gendarme, oui.
Et qui, par ailleurs, est une policière échangiste, est géniale. Et Emmanuel Devos, en tenancière de boîte échangiste, qui, en même temps, est une vieille copine d'école de tout le monde. Tout le monde se connaît. En plus, le Jura, c'est une très belle région. Et je trouve qu'il y a vraiment... plonge dans cet univers.
Je ne vois pas bien la transition de « en plus, le club échangiste », c'est « en plus, le Jura est une très belle région ».
Bref, okay. C'est un film d'accord. Qui m'a
et en
séduit.
Plus, on mange il faut du bon comté.
Pour... Il faut prendre ce film pour ce qu'il est, c'est-à-dire une bonne comédie noire, grinçante, drôle et irréaliste.
Charlotte.
Oui, moi aussi j'y ai pris beaucoup de plaisir et en fait ce qui est assez surprenant je trouve c'est le sens du rythme, mais quand on dit ça c'est pas justement dans un sens très nerveux auquel les comédies françaises nous habituent, c'est que là Franck Dubosc pousse les situations et il pousse... jusqu'au malaise, quoi. C'est-à-dire que ça se joue beaucoup aussi dans les silences, dans les regards, oui. Et on se dit non, et on attend la non-réaction de l'interlocuteur et l'humour vient de là.
Absolument.
C'est-à-dire que vraiment, tout est poussé, c'est un peu comme un élastique, vous voyez, qu'on tend, on tend, on tend, jusqu'au
va-t-il
moment...
Va-t-il aller
voilà,
jusque-là ?
Est-ce que ça va lâcher ou pas ? Et en ça, je trouve ça assez audacieux, on va dire. En tout cas, il y a un style là dans l'efficacité des gags,
pour le moins inattendu.
Voilà, très inattendu. Donc moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Après, deux heures, faut peut-être pas pousser mémé dans les orties, enfin dans la neige en l'occurrence, ça m'a semblé quand même un peu long. Moi, j'ai beaucoup pensé aussi à des films comme Poupoupidou, à des comédies macabres aussi de l'Europe du Nord. On en a eu beaucoup chez les Norvégiens et les Suédois, avec voilà cet humour noir, macabre, qui va au bout et qui est porté par un casting, vous l'avez dit, absolument irréprochable.
Le micro circule pour Un ours dans le Jura de Franck Dubosc. Bonjour.
Bonjour, bonne année d'abord. Et puis, trouve que l'année commence bien au cinéma par ce film, parce que c'est vraiment très bien ficelé. On ne s'ennuie pas une seconde. Il faut savoir un peu lâcher les vannes quand on va au cinéma. Pas ne voir que le côté négatif, parce que rien n'est parfait, mais au moins on passe un bon moment. Voilà.
C'était donc pour Un ours dans le Jura de Franck Dubosc, sorti ce 1er janvier. Nous sommes maintenant en 1792 en France.
Là, on sait pourquoi.
Donc le film s'intitule Le Déluge. Et pourquoi ? Parce qu'il va être question de Louis XVI et Marie-Antoinette et leurs enfants qui viennent d'être arrêtés et avant d'être enfermés dans le donjon de la Tour du Temple à Paris. Et ce film, Le Déluge, est réalisé par le cinéaste italien Gianluca Giudice. Le film retrace donc les derniers jours du couple royal, d'abord détenu dans une pièce vaste et dénudée, avant d'être séparé dans des geôles. On suit l'humiliation du roi et de la reine, à travers une tragédie en trois actes, les dieux, les hommes, les morts. Guillaume Canet et Louis XVI et Mélanie Laurent incarnent Marie-Antoinette. Muriel.
C'est un film très 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 bizarre, je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait me raconter au début, pourquoi ça sort. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'un film complètement inoffensif qui replie tout sur la sphère intime, sur ce qui se passe entre Mélanie Laurent et Guillaume Canet qui a un visage en fromage fondu. Alors vous verrez, c'est à la fois totalement, il a des prothèses, je ne sais pas, je pense qu'il y a de la retouche numérique. Bizarrement, c'est peut-être le truc qui m'a le plus intéressé dans le film, c'est Guillaume Canet qui joue une sorte de Louis XVI.
François Hollande jeune, un peu.
Alors voilà. Tu as dit les mots, c'est-à-dire qu'en fait, on pense évidemment à l'actualité politique, et en fait, c'est un film, moi j'ai beaucoup pensé, c'est un film sur Macron, en fait, il faut le dire tel que c'est. Mais le film fait sous couvert, voilà, de tout replier sur l'intime, en fait, est, je crois, un film surchargé politiquement, et qui, en fait, est dans une sorte de mélancolie du pouvoir monarchique, avec en face une angoisse et une sorte de dégoût pour une image du peuple. À chaque fois que le peuple s'incarne dans le film, c'est vraiment l'ascendant pour, voilà, continuer. Continuer à tirer le fil, c'est vraiment l'ascendant. Et donc, au bout d'un moment, forcément, au lieu de Louis XVI, on voit Macron, au lieu du peuple, on voit les gilets jaunes. Mais ce qui m'a vraiment dérangée, c'est que jusqu'au bout, le film fait mine de ne pas être politique, de ne pas avoir de discours politique, de s'intéresser, voilà, à cette manière de dénuder le roi comme ça en trois chapitres. Et donc, c'est plutôt le sentiment, en fait, bah oui, d'un film plutôt, d'un vrai film de droite, mais qui se cache, quoi, tout simplement.
Charlotte.
C'est très étonnant ce film parce que d'un point de vue dramaturgique, quand même, c'est compliqué puisque en tant que spectateur, bah nous on sait ce qui va leur arriver, hein, quand même, quick, il n'y a pas beaucoup de suspense sur la fin, voilà, et donc finalement, ce couple royal va être dans le dépouillement au fur et à mesure, c'est-à-dire que la seule action du film, c'est ce dépouillement progressif avec aujourd'hui, ah, pof, il n'y a plus de fourchette, ok, aujourd'hui, pof, il n'y a plus de stylo, comme ça, c'est là un peu
enfin,
la
pas de
seule chose
bon.
Qui se passe, si, non, il demande une plume, hop, il n'y a plus de plume, oui. Voilà. Tout ça avec des dialogues hiératiques et en même temps, une beauté plastique assez incroyable, c'est-à-dire que il ne filme pas, il fait des tableaux, il fait de la très belle photo, ce réalisateur, donc c'est beau, mais c'est totalement dévitalisé et c'est comme si le réalisateur s'intéressait uniquement à la situation et non pas au personnage. Alors évidemment, c'est très difficile en plus d'avoir de l'empathie pour Louis XVI et Marie-Antoinette vu cette histoire politique.
Lui, on a beaucoup.
Et oui, en même temps, on sent qu'il en a énormément, qu'il voudrait nous adjoindre à en avoir également, puisqu'on connaît l'issue fatale de cet enfermement. Et donc moi, j'étais constamment prise dans ce truc, bah non, mais moi j'ai pas envie d'être triste pour eux, là, et en même temps, on voit un couple qui s'avance vers la mort. Donc c'est très troublant, c'est curieux, et en même temps, sortir ça un 25 décembre, c'est quand même assez curieux, quoi.
Tu as fêté Noël avec Le Déluge ?
Oui, bien sûr, bah c'est l'autre film de
Morvan. Je n'en attendais pas moins de toi.
De
oui,
cette
bien
semaine,
sûr.
Quand même, après Nosferatu. C'est vraiment étrange. Je crois que je pourrais reprendre mot pour mot, moins bien évidemment, les mots de Muriel, parce que c'est effectivement ce problème que j'ai eu de voir peu à peu le film versé dans une idéologie dans laquelle je n'avais pas du tout envie qu'on m'intègre. Il y a une scène qui m'a donné un peu d'espoir, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui vient voir le roi et lui dit « J'ai un ami qui est atteint d'une maladie, vous avez le don transmis par Dieu de le guérir, est-ce que vous accepteriez de le faire ?» Et Louis XVI, dans sa bonhomie, et je trouve Guillaume Canet plutôt bien derrière, effectivement, plein de choses, Elephant Man et tout ça, je trouve qu'il incarne quelque chose d'assez humain et d'assez attendrissant, mais je n'ai pas envie d'être attendri comme toi par Louis XVI. Et la scène se finit sur une ambiguïté. Est-ce que c'est une farce qu'on lui a fait pour se moquer de ce don divin ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ? Et je me suis dit, chouette, il y a un petit effet de bascule qui peut être intéressant. Et puis après, terminé. Dès qu'on verra quelqu'un du peuple, ce sera effectivement une gueule cassée, une gueule défaite, une saleté répugnante, jusqu'à, je ne vais pas le révéler, le chantage dont est victime Marie-Antoinette à un moment et qui va améliorer, entre guillemets, leur ordinaire. Je trouve d'ailleurs Mélanie Laurent, qui est une actrice qui m'intéresse pas du tout.
Ça a été ajouté par rapport...
Ça a été ajouté, mais voilà. Mais ça en rajoute, effectivement, malheureusement, sur le côté pernicieux du peuple, revanchard, parce qu'il y a un récit qui est celui de ce gardien qui va raconter pourquoi il en veut tellement.
Oui, et gardien qui n'existe pas, par ailleurs. Le film se base sur les carnets de Cléry, on le voit quasiment jamais. Les enfants, ils n'existent pas non plus.
Cette séquence,
il y a personne dans le film, hein.
Suit un récit de la première personne où il dit effectivement toute la violence qu'il a dû endurer à cause de la politique royale et tout ça. Et effectivement, le film finit par être de droite. Alors on sent que Sorrentino...
Mais ça, après tout, pourquoi pas ?
Non, mais
c'est ça qui est gênant. non, c'est
mais qu'il l'assume et qu'il fasse autre chose qu'une espèce, à un moment d'ailleurs il regarde une espèce de petite lanterne magique, et le film n'est rien d'autre qu'une lanterne magique qui pense qu'en nous éblouissant avec de belles images va nous faire oublier le fond, et malheureusement bah, il lui revient dans la gueule.
Christophe, pour terminer,
vous avez le loisir, vous devriez lire le journal intime du tsar et les derniers jours du tsar, parce que le tsar Nicolas II
qui est encore trempé de sale
a vécu la même chose que Louis XVI, c'est-à-dire c'était une espèce de personnage qui était roi malgré eux, qui n'avaient qu'une envie, c'était de cultiver leur jardin, et qui se retrouvaient à la tête d'un pays, comme une espèce d'enfant à la tête de l'État. Et en fait, c'est ça qui m'a frappé en voyant ce film. Et en même temps, c'est un film qui est très intéressant, moi je trouve, au contraire de vous, politiquement, parce que c'est un film qui permet de rappeler à quel point la période de la terreur a été une période, un règne de médiocre et un moment de dictature épouvantable en France. C'est un moment de totalitarisme. Je ne parle pas de la révolution, bien sûr, je parle de la terreur. 1792-1793.
Et là, on le voit pas, c'est là où Christophe, c'est là où on la voit pas la terreur dans guillotine.
Bah si, on la voit à travers la violence du traitement de Louis XVI. Je sais bien que Louis XVI s'était barré à
la violence du traitement. Aujourd'hui, t'as pas de couvert. Excuse-moi, il y a pire comme.
Disons que forcer quelqu'un à manger avec les mains, c'est plutôt dégradant. Je pense que n'importe quel détenu à qui on force à manger avec les mains, c'est dégradant. Alors
c'est
si c'est le roi,
ah bah c'est génial. Mais c'est pas la pire des violences.
C'est pas la question.
J'ai
pas fini. J'ai pas fini. Parce que
mais il va falloir terminer.
Je trouve que le débat est intéressant, je trouve que le propos est puissant, mais le problème, c'est cette esthétisation démesurée. C'est-à-dire que c'est un film qui souffre d'un parti pris esthétisant, qui atténue la violence, qui édulcore le propos, qui rend tout un peu comme une espèce de blouette sucrée. Enfin bref, c'est filmé comme un film érotique de Jules Jacquin. Et ça m'a gêné, tu vois. Alors il y a certes, je dois dire que Guillaume Canet est formidable, Mélanie Laurent formidable, mais moi ce que je me suis dit en sortant de ce film, c'est qu'il ne suffit pas de savoir bien filmer pour réussir un film.
On termine donc avec le déluge, juste avant la virgule. Les habitudes n'ayant pas changé en 2025, c'est l'heure de vos coups de cœur. On commence avec toi, Charlotte.
Alors, c'est un film qui vient de sortir, qui s'appelle « Tout ira bien » de Ray Young, un film qui nous vient de Hong Kong, où on est dans le quotidien d'un couple de femmes qui vivent ensemble depuis 30 ans. L'une d'elles décède, et c'est un couple fédérateur, pilier de la famille. Et pour celles qui restent, eh ben, ça va être des jours difficiles, puisque petit à petit, doucement mais sûrement, bah, elle va se retrouver spoliée de son deuil et de tous leurs biens. C'est un film d'une grande délicatesse, d'une grande beauté et d'une immense douceur malgré la dureté de ce qui arrive. C'est un film qui vous fera complètement fondre, je l'espère, comme moi, de Ray Young. Ça s'appelle « Tout ira bien » et c'est encore une fois peut-être la plus belle plume délicate qu'on posera devant vos yeux cette semaine.
Xavier.
Mon conseil, c'est un autre grand film de cette semaine, c'est Raoul Peck, le cinéaste haïtien, qui signe Ernest Cole Photographe, un documentaire absolument passionnant sur ce grand nom de la photographie que je connaissais mal. On savait son travail en Afrique du Sud pendant l'apartheid, puisqu'il en avait tiré un livre qui a permis d'asseoir sa célébrité, sa renommée, qui était House of Bondage, la maison des servitudes. Il est invité à venir aux États-Unis, et aux États-Unis, il produira beaucoup, mais ne sera plus du tout publié, parce que subitement, un noir qui photographie la ségrégation américaine, sur place, à New York, ça n'intéresse pas du tout les Américains. Et donc, Raoul Peck revient à sa manière pour raconter autre chose que l'histoire officielle, souvent écrite par les vainqueurs, c'est-à-dire par les Blancs, aux États-Unis en tout cas. Et il va travailler sur les clichés qu'on a retrouvés d'Ernest Cole, plus de 60 000 qui ont été retrouvés en Suède, pour essayer de comprendre quel était le style, quelle était l'intensité, quelle était effectivement vraiment la teneur artistique et politique d'Ernest Cole. C'est passionnant. Et si, comme moi, vous tombé sous le charme du travail d'Ernest Cole, et bien De Noël et les éditions Velvet Fine viennent de sortir un livre absolument magnifique avec une grande partie de ses clichés, et c'est vraiment une trace mémorielle, artistique et photographique indispensable pour comprendre la deuxième moitié du XXe siècle aux États-Unis.
Ernest Cole, photographe, film de Raoul Peck.
Livre.
Christophe.
Moi, c'est un coffret Blu-ray avec un livre absolument magnifique sur Paris-Texas que vient de sortir Carlotta Film. C'est, moi, pour moi, Paris-Texas, c'est peut-être un des plus beaux films que j'ai vus. Ça a marqué ma jeunesse. Et là, c'est se replonger là-dedans, le revoir en version restaurée, c'est génial. Et en plus, il y a un livre qui s'appelle Quitter l'autoroute et dans lequel il y a alors des entretiens avec Wim Wenders passionnants, des entretiens avec Harry Dean Stanton, Dean Stockwell. Et puis, il y a le scénario complet du film. Et il y a énormément de photos photos, plein de photos de tournage. Et j'avais oublié, mais parmi les assistantes de Wim Wenders, il y avait Claire Denis, cinéaste Claire Denis, future cinéaste. Et c'est extrêmement touchant de voir ce
et
tournage.
On n'a pas un petit bout de laine du pull rose Angora
Il manque Nastassia Kinski qui n'est pas interviewée.
Dans son portefeuille, Muriel.
Alors moi, c'est aussi un coffret Blu-ray de l'intégrale des longs-métrages de João César Monteiro, cinéaste portugais, sans doute le plus important des cinéastes portugais avec Oliveira. Et alors, c'est des films qui sont très très rares à voir. Moi, je les avais vus il y a 10 ans à la Cinémathèque française et je me souviens que du choc que ça avait été de voir des films comme La Comédie de Dieu, qui est peut-être son chef-d'œuvre. Et c'est un cinéaste qui adorait la Nouvelle Vague, qui était très francophile, qui aimait aussi beaucoup le cinéma américain et qui brasse beaucoup de références cinéphiles et littéraires. On est entre Buster Keaton, Chaplin, le surréalisme et Don Quichotte. Je trouve que voir un film de Montero, c'est vraiment un moment se dessiller le regard et ça fait vraiment énormément de bien. Donc c'est Spectrum Film qui sort tous les films en version restaurée dans un coffret. Voilà.
Et pour ma part, je termine avec Maestro Ennio Morricone du cinéaste italien Giuseppe Tornatore, pour qui Morricone avait d'ailleurs composé 2 bandes originales, dont celle de Cinema Paradiso. Et c'est donc un documentaire qui suit la trame classique de la chronologie, hein, l'enfance, la carrière de Morricone. Mais il y a 2 choses au moins absolument exceptionnelles, c'est la qualité de l'entretien avec Ennio Morricone, sa clarté, la précision de sa mémoire pour raconter la naissance d'une idée, ses inspirations, et puis il y a aussi des intervenants assez exceptionnels puisque sont interrogés par Tornatore, Tarantino, Bellocchio, Eastwood, des musiciens aussi de John Baez à Bruce Springsteen, et donc c'est l'histoire d'un des plus grands musiciens du XXe siècle qui a composé des partitions souvent expérimentale pour du cinéma grand public. Et dans le film, d'ailleurs, on parle de sa musique comme d'un choc culturel. Et puis, c'est aussi le portrait d'un homme ombrageux et malicieux qui avait une rigueur et une exigence qui confinaient à la folie. Le début du film, il fait sa routine matinale. Donc, 5 heures du matin, le tour du salon et la gym sur la moquette à l'âge de 90 ans. Je vous redonne le titre, Maestro Ennio Morricone de Giuseppe Tornatore. Et c'est sur Arte jusque fin mars. Et ça dure 2h30, mais ça passe vite, je vous le promets. Muriel Joudet, Xavier Le Herpeur, Christophe Bourseiller, Charlotte Lipinska, merci d'avoir participé à ce premier masque de l'année, tandis que bien d'autres sont à venir. Et la semaine prochaine, toujours depuis le Théâtre de l'Alliance Française, nous débattrons de la rentrée littéraire. Guillaume Giraud réalise le masque et c'était avec Delphine Bauder, Romain Lenoir, Mathieu Leroux et Leslie Horowitz aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco qui coprogramme l'émission, préparée une dernière fois avec l'aide de Lola Benesch. Encore une excellente année à tous, plumés et non masqués, le dimanche sur France Inter, évidemment.